Salut, Kebar.
Salut JC. Salut James.
Salut.
Salut les gars.
Oula, la petite voix, James.
Ouais, tu vois aujourd'hui, compliqué.
Salut Mathis.
Salut à tous, salut, j'espère que tout le monde va bien.
On fait comme on peut hein, dans cette heure qui précède le match. Salut Paul qui est avec nous pour Tribune Nantaise.
Salut Clébar, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut Paul.
Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer puisqu'on est tous là, tous disponibles, enfin disponibles façon de parler, hein, parce que ce qu'on vient d'insister, c'était quand même pas terrible du tout même. On espérait cet après-midi que la Beaujoire rime à nouveau avec victoire. Je pense qu'on était plus proche du désespoir et du cauchemar. Un petit mot pour vous, pour situer un petit peu l'état d'esprit à l'issue de cette rencontre. JC, je vais commencer par toi.
Alors, il y a deux phases en fait dans ce que je vais dire. La première phase,
Non,
c'est
j'ai juste commencé par un petit mot, lycée.
ah pardon. Ouais, bah je. Il y avait espoir avant le match par rapport au fait que tu joues Metz. Et quand tu regardes le match, défaite totalement méritée. Voilà.
Ok. Ouais, je rejoins là-dessus. James.
Alors aujourd'hui, je me sens humilié et je savais, tu sais, dès le début du match, je vous l'ai dit, dans le groupe, je l'ai dit
Oui.
que ça va être un match compliqué, que la défense à 5, ça va être calamiteux face à eux. Et on voit le résultat. Franchement, on s'est fait chier dessus, il n'y a pas d'autre terme en fait. Hein.
Non, je
Voilà.
pense que c'est si bien résumé aussi, Mathis.
Ouais, bah pareil, quand on joue Metz, qui est dans les derniers, qui est peut-être l'une des équipes les plus faibles du championnat avec Clermont, tu te dis qu'à domicile, même sans la Tribune Loire, tu dois prendre minimum un point ou alors remporter, et au final tu te fais complètement battre. Moi dire c'est presque facile les buts que Metz il marque, enfin ça se voit de loin, donc c'est un petit peu triste, mais à vrai dire on n'est pas très étonné vu les performances des derniers mois.
D'accord. Et Paul, un petit mot là pour résumer ton état d'esprit à l'issue du match.
Non mais venez, on parle du Paris-Nice, il y a la France qui est en train de gagner handball. Venez, on parle d'autre chose. Non, je vais pas redire ce qui a été dit, mais oui, sentiment d'humiliation. Après des matchs costauds contre Lorient, Paris, Toulouse, se faire pisser dessus 2-0 par Metz, c'est pas possible.
Ok. Une nouvelle fois, le FC Nantes s'est présenté sur la pelouse en 5-3-2. Jocelyn Gourvennec ayant voulu probablement sécuriser ses joueurs avec la composition qu'il connaissait et qu'il maîtrisait le mieux ces derniers temps. JC, tu nous fais un petit point sur le 11 de départ?
Oui, alors il y avait Alban Lafont dans les buts, la charnière centrale avec Palois, Zézé,
Castelletto?
excuse-moi, j'ai un et Castelletto. On avait donc à gauche Nicolas Cozza, également à droite Coco, Marcus. On avait en défense, en milieu de pardon, donc Chiri Vella et Douglas Augusto. Mollet, on ne sait pas trop où il a joué in fine, mais bon, je pense que dans le schéma de jeu, il devait être le troisième milieu de terrain sur la droite. Et ensuite, on avait une pointe avec Simon et Mohamed.
Ok.
Donc, on était dans un schéma, comme disaient certains mes collègues, reconduit. Je crois que c'est James qui a évoqué cette défense à 5, reconduit par rapport aux victoires de Toulouse. Et à Lorient.
Effectivement, moi j'ai vu Mollet aussi un petit peu presque poste pour poste à Sissoko avec des qualités autres, hein, mais grosso modo c'était ça. Pour revenir, pour commencer dans le sujet, je pense qu'on s'attendait à avoir la position de balle avec. Face à cette équipe du FC Metz, on a l'impression que la consigne de Gourvennec, enfin ça, je vous le dirai plus tard, on a l'impression que le but c'était d'attaquer, mais pas trop, parce qu'il fallait rester solide défensivement. Finalement, ils ont réussi aucun des deux, ni à bien attaquer, ni à bien défendre. Est-ce que c'est pour vous, et je vais commencer par James, est-ce que c'est pour vous plus la responsabilité de Jocelyn Gourvennec? Avec ce schéma-là et cette équipe, bah tiens, on cherche à jouer, mais pas trop quand même. Ou c'est les défaillances techniques des joueurs?
Alors la responsabilité est entièrement celle du coach aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, il est sur une série de 5 défaites à la Beaujoire, c'est historique, c'est un record. C'est un entraîneur qui, pour moi, je sais pas, des limites intellectuelles, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a certains choix qu'il fait qui sont incohérents. On avait déjà un peu ça avec Embouré, c'était
Tu
compliqué
penses à
déjà.
quoi, James, quand tu parles de choix incohérents?
Hormis le 11 de départ, le coaching est calamiteux. Tu fais sortir Mohamed quand tu prends un but, tu fais rentrer des joueurs comme Ablin qui sont intrinsèquement moins meilleurs que Mostafa Mohamed, que ce soit la seconde mi-temps ou pas. Il y a plein de choix comme ça que tu fais qui sont compliqués. Pourquoi tu fais pas démarrer Castagnetto à droite? Il a été bon la semaine dernière. Tu fais démarrer Coco qui est calamiteux aussi. C'est des choix comme ça qui sont débiles, qui sont tout simplement débiles. Il a dit que il a reconduit le 5-3-2 parce que aux entraînements, c'est le seul schéma qui apporte un peu de stabilité. La stabilité, je la cherche encore. Je la cherche encore. Ça fait 3 semaines que je cherche, si ce n'est plus. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Aucune remise en question après le match. Aucune remise en question sur son schéma de jeu, sur ses choix, sur son coaching, ses calamiteux. Dégage et pas demain, pas après-demain. Dégage aujourd'hui, s'il te plaît. Voilà.
Paul, tu voulais réagir?
Ouais, moi, je suis pas entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, je suis assez d'accord dans le fait que le coaching n'a pas été optimal en seconde mi-temps. Moi, je voudrais simplement dire que pour la première mi-temps, il y a énormément de gestes techniques. On s'en remet beaucoup à Simon qui fait un très gros match, mais qui ne peut pas non plus faire l'impossible. Derrière, on met pas assez de rythme, on n'est pas assez bon dans la finition, on n'est pas assez bon dans les centres. J'ai l'impression de revoir justement sous l'époque Aristouille avec un nombre de ballons qui ont flirté avec le haut de la barre transversale. Mais par rapport à Gourvennec, il doit composer sans latéraux, sans vrai latéraux de formation. Si tu mets Coco derrière, bah, ça veut dire que tu plombes. Ça veut dire que tu fais vraiment une défense à 5 et pas à 3. Parce qu'au final, dans ce match-là, c'était plus une défense à 3 avec un Coco piston qui aidait au milieu de terrain. Donc ça veut dire que tu mets Kozza sur un bloc bas, ce qui n'est pas forcément ce qui lui convient le mieux. Ça veut dire que tu bloques ton système à 3 avec les milieux qui vont devoir aller redescendre pour aller chercher des ballons. Et pour remonter, c'est encore plus compliqué. Et ensuite, James, pas des changements à la mi-temps, mais quand je vois le boulot qui a été fait de Mohamed, qui a énormément bougé, moi je me demande si c'est pas simplement des attaquants qui sont tellement allés chercher les ballons qu'à la fin, enfin, ils ont les jambes lourdes et doivent être changés, non pas par choix tactique, mais plutôt par fatigue. Mais du coup, cette fatigue, elle est liée à un mauvais coaching. Là, je te rejoins.
James, si vous voulez
Il
répondre.
n'y a pas que sur ce point-là, il n'y a pas que sur ce point-là où tu peux me rejoindre sur le fait que c'est Gourvennec le responsable. Tous les points que tu énumères là depuis le début, le responsable, c'est intrinsèquement Jocelyn Gourvennec. Pourquoi Simon est toujours mis en avant sur les phases offensives? Tout simplement parce qu'on se retrouve avec 6 joueurs à vocation défensive et c'est le seul qui peut faire des différences. C'est le seul et unique joueur dans le 11 qui est capable de faire des différences. C'est normal qu'on joue sur lui, comme l'a dit Pedro Chirivella, on n'a pas vraiment le choix en fait. Il l'a fait sous-entendre à Prime Video tout à l'heure à la fin du match. On n'a pas vraiment le choix. Ça, c'est Gourvennec qui impose ce choix-là, tout simplement en mettant
Est-ce
Kadewere sur le
que
banc, en mettant Traoré sur le banc et en mettant toujours 6 joueurs à vocation défensive. Et
pour t'apporter un petit peu de conviction, James, est-ce qu'on pourrait pas
tous les points
penser
positifs,
que
c'est Gourvennec le responsable. Point barre. Voilà.
pour t'apporter un petit peu de conviction, James, est-ce qu'on peut pas penser que dans ce schéma-là, par exemple, on pouvait s'attendre à un Mollet qui aille un peu plus apporter de soutien dans ce type de phase?
Mollet est calamiteux et c'est pas le début. C'est pas la première fois qu'il est calamiteux.
Oui,
On l'avait
d'accord.
vu au placard pendant 3 semaines. Il revient comme ça, il sort du chapeau du magicien. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va le faire tenter en numéro 8. Il a jamais été vraiment à ce poste-là au cours de sa carrière. Et quand il a été à ce poste-là, c'était toujours calamiteux aussi. Voilà, on est contre Metz. On se dit peut-être, vas-y, adversaire facile. Ils n'ont pas gagné depuis 10 matchs, donc on va pouvoir le faire jouer là. C'est pas un gros match. Ça va être un match plutôt facile. Ben voilà le résultat. Voilà le résultat, messieurs. On sous-estime les adversaires. Tout en mettant des blocs de 6 défenseurs contre des équipes qui n'arrivent pas à gagner, tu leur confortes dans leur complexe de supériorité tout au long du match. Ils ont fait des petites actions, Lafond qui les met en confiance et tout ça, je comprends pas, moi. En fait, tout est fait pour les mettre en confiance, tout simplement.
Ok. Jean-Charles, tu voulais réagir?
Ouais, je voulais rebondir sur ce que vient de dire James, qui est pour moi le principal point de ce match. En fait, quand tu ne cherches pas à faire mal à ton adversaire, à un moment donné, comme le disait James, tu vas mettre en confiance ton adversaire. Et ils ont bien vu les Messins qu'en première mi-temps, le FC Nantes était dans une position d'attente en se disant effectivement on lance Simon, il va faire un exploit. Il y a eu une frappe de Simon, une tête de Mohamed, après ça a été le désert. Donc le problème, bien évidemment, c'est de mettre, il y en a, j'ai vu un tweetos qui a mis un minibus, c'était pas un bus mais c'était un minibus, et contre Metz c'est pas logique que tu aies une telle frilosité. Je sais pas, moi à un moment donné j'ai fait des arrêts sur image, on voyait qu'à un moment donné en première mi-temps t'avais 5 défenseurs nantais pour un ou deux Messins. Donc, enfin, ce qui n'était pas nécessaire du tout. Enfin voilà, James a raison là-dessus, et le 11 de départ est calamiteux. Tu n'as pas le droit d'avoir peur contre Metz, parce que Metz, tu leur mets un but, après c'est terminé.
Mathis, je me tourne vers toi du coup, et je redonne un petit peu ma question. Est-ce que selon toi, c'est vraiment le manque d'ambition de Jocelyn Gourvennec sur ce match-là, ou la défiance technique des joueurs?
Moi, je dirais que c'est un petit peu des deux, parce que c'est vrai que jouer avec une défense à 5 contre l'avant-dernière attaque du championnat, on peut se poser des questions, même si c'est le système qui est utilisé lors des derniers matchs. Mais aussi, il y a vraiment des défaillances techniques graves, quoi. Il y a des balles qui vont en touche. Enfin, on dirait, des fois, on dirait même que c'est du niveau Ligue 2, voire national, techniquement. Donc, c'est assez grave, surtout qu'on sait que nos joueurs. Je parle notamment peut-être de Chirivella, que j'ai trouvé encore très en dessous. On sait qu'on l'a vu les dernières saisons sous le maillot nantais, qu'il est largement capable de faire mieux. Là, il est plus dedans depuis quelques temps. Alors, ok, je ne sais pas s'il est toujours remis de la blessure qu'il a eue. Et pourtant, je ne comprends pas, parce que le milieu de terrain avec Augusto, normalement, ils sont assez complémentaires. Chirivella, qui est un petit peu technique, et Augusto, qui est plutôt dans l'agressivité, etc. Même s'il fait beaucoup de fautes, normalement, ils devraient être assez complémentaires. Et au final, aujourd'hui, ils se sont fait complètement manger. On n'avait pas le ballon. C'était les milieux terrain messins, qui sont encore pires que nous techniquement, de ce que j'ai vu, qui avaient le ballon. Et puis Mollet, il était à la fois partout et à la fois nulle part. C'est-à-dire il courait partout, mais il servait pas à grand-chose. Et puis surtout, Mollet, on a eu un nombre incalculable de coups de pied arrêtés. Il y en a peut-être eu 2 sur 15 qui ont été bien tirés. Donc la genolière, s'il pourrait s'entraîner là-dessus, ça aiderait pour les prochains matchs.
Ouais, moi je rejoins sur le pouvoir entre guillemets de Mollet sur ce match-là. Moi je l'en attendais beaucoup plus. Je pense qu'il pouvait même être la clé du match et être un peu plus source de propositions offensives. On le voit beaucoup courir. C'est souvent, alors je l'ai pas vu sur les stats de ce match-là, mais c'est souvent l'un des joueurs qui court le plus pour Nantes, mais on a l'impression qu'il est un peu, et je crois que cette phrase-là que j'ai déjà pu la dire, un peu partout et nulle part, et ça devient un petit peu frustrant. Bon, je vais passer au point numéro 2, les gars. Je voulais rebondir sur nos anciens coachs, Camboiré, Aristou et Gourvennec. Ce sont des coachs qui ont régulièrement changé de système pour finalement revenir une défense à 5. Est-ce qu'on a possibilité avec ces joueurs-là de jouer autrement, parce que on force est de constater qu'à chaque fois nos entraîneurs reviennent avec ce système-là. Je vais commencer par toi, JC, si tu as un avis sur la question.
Je pense, c'est pour ça que, à juste titre, Paul a parlé qu'on n'avait pas de latéraux de métier, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut effectivement jouer à 4. Et le problème, c'est que notre meilleur défenseur central est mis soit en piston droit, ou il a joué quand même aujourd'hui défenseur central droit, mais à un moment donné, il a basculé quand Coco est sorti plus sur le côté. Et quand tu vois, la lenteur d'un Palois sur le deuxième but, c'est sûr que Palois, il est bon en défense à 5, mais à 4, c'est une catastrophe. Oui, je pense qu'on a les joueurs pour le faire, même si ce ne sont pas des joueurs de métier, notamment face à des adversaires comme Metz, comme on répète un peu depuis quelques minutes, quoi.
Quand tu joues face à Metz, comment toi, Lucie ?
Moi, le schéma idéal, ça aurait été, alors, pourquoi pas jouer à 5 défenseurs, mais à la place d'un Mollet, d'un Benny Traoré. C'est-à-dire qu'on aurait amené un peu plus de vitesse sur les côtés. Ou le schéma idéal, ça aurait été effectivement à jouer à 4 derrière, avec Castelletto, Zézé, Kozza, Castelletto, enfin droite, c'est vrai que Coco, pourquoi pas, même si c'est pas son meilleur poste, mais moi j'aurais préféré un Castelletto-Zézé qu'un Palois-Zézé dans une défense à 5. Allez, Coco à droite, on va dire, en latéral droit à 4. Après, j'aurais mis deux milieux de terrain, Douglas et Pedro avec Mollet, et j'aurais mis trois attaquants, ceux que j'ai cités à l'instant.
Okay.
Mais bon, encore une fois, tu vois, ce que je disais en prélude, c'est que quand tu ne veux pas faire mal à ton adversaire, l'adversaire le sent, prend confiance et va venir te piquer. Et c'est, on a été dans cette configuration de match.
Ouais, c'est James, tu voulais réagir à ça?
Bien sûr qu'on peut jouer à 4, c'est pas le problème. Moi, je trouve que l'excuse de la défense à 5, c'est quand on était toujours dans des situations où on se prenait beaucoup de buts et on n'arrivait pas à, tu vois, à trouver, entre guillemets, une explication. Alors qu'on était juste mauvais, mais on manquait de réussite. Au-delà de ça, c'est toujours le système un peu qui revient, c'est revenir à 5, revenir à 5, revenir à 5. Comme Boré l'a fait avant qu'il soit remplacé par Aristouille. Vous rappelez-moi le résultat, on enchaînait les défaites, on était dans la zone rouge et bien parti pour descendre. Ensuite, il y a eu Aristouille qui est revenu, qui a retenté aussi le schéma A4, et ça a marché un peu mieux. Et ensuite, contre Angers, on a réussi à offensivement proposer du jeu, et on a tout de suite vu la différence, tout de suite. Et dès que la saison est recommencée, c'était un peu compliqué parce que le mercato avait du mal à commencer, etc., etc. Ensuite, face à Marseille, etc., même à 10 contre 11, on arrivait à faire le jeu, à avoir des joueurs à vocation offensive, même en étant réduit. Et là, on retrouve plus ça, en fait. On retrouve juste un bloc compact de 6, 7, voire 7 défenseurs, des fois limite, avec Sissoko, Chirivella qui défendent et Augusto. À un moment donné, un peu de dignité, je sais pas. C'est pas Paris, c'est Metz, c'est Metz. Là, c'est compliqué. Et oui, il n'y a pas d'excuse pour moi. Il n'y a pas d'excuse. On peut jouer à 4. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a les joueurs pour. Les joueurs ont les capacités de jouer à 4 aussi. Et je pense même qu'ils seraient plus à l'aise à 4. Le temps de trouver l'automatisme, c'est pas compliqué. Moi, je comprends pas. Son excuse à l'entraînement, j'ai testé plusieurs schémas et c'est le seul qui revenait où on était stable. Mais mon gars, t'es en entraînement déjà. Et si tu laisses pas le temps de se faire les choses, tu laisses aucun automatisme se faire et qu'on est toujours en schéma défensif, comment tu peux créer des automatismes avec tes joueurs offensifs? Moi, c'est ma seule question, en fait. Donc après, oui, évidemment, on va remettre sur Simon parce que c'est le seul qui peut faire des différences, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est normal, c'est de la logique, c'est juste de la cohérence.
Ok, ok, James. Paul, selon toi, comment ça se fait qu'on revienne systématiquement à cette défense à 5 avec les coachs qui succèdent? Et j'ai pas noté Domenech dans mes coachs, mais je me demande si Domenech était pas repassé à 5 aussi.
Bah, Domenech, déjà, c'est celui qui a lancé Merlin. Donc, je me demande s'il ne lance pas sur une défense à 5 aussi. Mais quand tu regardes le match de cet après-midi, tu peux limite te dire, alors c'est un peu osé ce que je vais dire, mais tu peux jouer en 4-2-4 avec Simon en ailier, Kadewere à droite et Benny Traoré, Mohamed en pointe. Et voilà, on n'a pas la confiance de faire jouer nos joueurs offensifs, sachant qu'il y a aussi il n'est pas en forme.
Je me permets de te couper parce que je trouve que c'est intéressant et de mon point de vue, tu touches quelque chose que je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'on ne l'a pas non plus, en tout cas. Mais quand tu dis qu'on n'a pas la confiance, c'est qui l'a pas? C'est Jocelyn ou c'est les joueurs?
Oh, c'est Jocelyn, c'est exactement, ça rejoint un peu ce que je disais la semaine dernière, c'est que, mais ça vient aussi de la présidence, c'est lorsqu'un coach n'a pas le temps d'établir son plan de jeu avec des schémas clairs et est obligé d'aller chercher au minimum un point chaque week-end, bah, la meilleure solution en Ligue 1, ça reste le bus, et ça reste le schéma le moins punitif. Après, dans le schéma que je suis en train de proposer, bah, tu fais pas monter ta défense. T'as pas besoin de faire monter ta défense. Aujourd'hui, on était tellement en difficulté sur les phases offensives qu'on a fait monter la défense. Et avant le premier but de Metz, on n'est pas loin d'en prendre un où Metz a un 4 contre 2 à négocier et t'as Palois et Zézé qui se retrouvent dans la surface en se disant un peu mais qu'est-ce qu'on fout là? Il est où Castelletto? Il est où Kozza? Enfin, c'est très compliqué. Mais voilà, comme il y a un besoin de points et qu'aujourd'hui, mais c'est même pas que FC Nantes, c'est le football en règle générale est devenu un sport défensif où il y a tellement d'enjeux à chaque match qu'on ne peut pas se permettre de repartir sans les points. Et bon, on est comme ça. Quand tu regardes en fin de saison les équipes qui sont dans les zones rouges, bah c'est bizarre, mais ça produit beaucoup plus de jeux, et c'est pour ça que souvent on a des fins de saison dans les zones rouges qui sont hyper intéressantes parce qu'il y a du jeu et parce que il y a plus de schémas offensifs qui sont mis en place.
Ok, merci, merci Paul. Bon, bah on m'annonce pendant ce space que Lorient mène 1-0 face à Rennes, que Lorient mène 1-0 face à Rennes. Merci Lulu pour l'info.
Mathis, et Toulouse a gagné contre Nice.
Mathis, un petit avis sur la question?
Moi, j'aimerais quand même rappeler que la défense à 5, c'est ce qui nous a permis de remporter une Coupe de France. Faut pas l'oublier avec qui on jouait. Bah, effectivement, il y avait quand même un joueur solide derrière qu'on n'a plus cette saison, c'était Giroto.
Et
À
celui
l'inverse,
derrière et celui devant,
oui, aussi.
hein.
Et à 5, on a aussi joué, c'était il y a un peu plus d'un an, contre la Juventus, qui est selon moi la meilleure performance du FC Nantes ces dernières années, le meilleur match qu'on ait fait.
L'un des chefs-d'œuvre de Camboré, tu peux le dire.
Exactement, l'une des petites régalades. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça marche pas, quoi. Palois, si on le fait jouer, on est obligé de le mettre dans une défense à 5, parce que dans une défense à 4, c'est trop catastrophique. Mais je crois que le mettre dans l'axe de la défense à 5, c'est une très mauvaise idée, et on l'a vu encore avec Metz, parce que sur les contres, il reste presque que lui. Mikotadze, il a été plein de fois en un contre un peu contre Palois. Alors lui, déjà qu'il est rapide, donc forcément, il va prendre de vitesse Palois. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure option de mettre Palois ici. Et le problème aussi de cette défense à 5, c'est que nos pistons sont pas du tout au niveau. Normalement, dans une défense à 5, ce qui est bien, c'est d'avoir un piston très offensif et un qui reste un peu plus en défense pour apporter de la solidité. Là, le problème, c'est Coco qui doit être notre piston le plus offensif. Il a perdu tous ses réflexes d'ailier qu'il avait, enfin, qu'on pense qu'il avait un jour. Et techniquement, il apporte pas grand-chose. Devant, il a peu de ballons. Du coup, bah, on s'en remet à Simon. Et au final, le système à 5 reste plus défensif. Et au final, les pistons ne montrent pas grand-chose. Même si j'ai bien aimé le début de relation entre Kodza et Simon, j'ai trouvé que sur certaines séquences de jeu, ça m'a rappelé un petit peu la connexion qu'avait Simon avec Merlin. Donc ça, si on peut rajouter quelque chose de positif, ça serait là-dessus sur la défense à 5.
Non mais je te rejoins parce que c'est vrai que on parle de défense à 5 parce que voilà on joue comme ça depuis quelques matchs. Le problème c'est que Marcus Coco un match sur deux c'est très difficile de savoir ce qu'il va donner. C'est qu'il a pu nous proposer même encore récemment des prestations on va dire passables ou intéressantes. Kodza c'est pas du tout son poste de formation. Il n'est pas inintéressant mais il a aussi besoin de prendre des repères et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vraiment très complexe de jouer sur des paris comme ça et des joueurs qui vont pas forcément faire les efforts ou qui sont pas au bon endroit au bon moment. J'ai presque trouvé que Castelletto, parce que moi j'ai presque, j'ai trouvé Castelletto était bien mieux sorti à ce poste-là la semaine dernière que Coco aujourd'hui. Bon.
Ah bah de toute façon, Castelletto, comme le disait Jean-Charles, est notre meilleur défenseur et le défenseur le plus fiable depuis plusieurs matchs, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est vraiment le plus fiable. Peut-être que des fois, il va faire des bêtises, mais il ne faut pas l'oublier quand même qu'il nous a offert les 3 points contre Lorient. Parce que s'il ne marque pas contre Lorient, ça se trouve, on aurait encore fini par perdre. Donc quand même, ouais, Castelletto, je suis d'accord là-dessus, ça fait partie quand même, on va dire, du... Un petit taulier de la défense, même si je pense que vu l'état de l'équipe, on peut pas vraiment parler de taulier.
Ouais, non, ça, merci, effectivement. Je vais vous proposer de passer au troisième point. J'avais noté que au tout départ de l'arrivée de Jostein Gourvennec, on avait eu un calendrier un petit peu complexe, qu'ensuite, après la trêve, il y a eu la CAN, avec le départ de nos meilleurs joueurs. Est-ce que là, Jostein Gourvennec n'est pas en train de jouer son avenir là sur les 2 prochains matchs? Sous-entendu, bah, il n'aura plus les excuses du calendrier un petit peu et de la prise de fonction, puis du départ des meilleurs joueurs. Est-ce que là, il ne joue pas son avenir là, sur les 2 prochains matchs? JC, un avis sur la question?
Je ne pense pas. Après, il faudra voir si on en prend 7 à Marseille. Et après, je sais plus que. Il faut regarder le calendrier, je ne sais pas contre qui on va jouer. Mais la réponse est plutôt non. Après, moi, Gourvennec, je pense que j'étais emballé sur les derniers matchs. Ce qui me dérange d'autant plus, par contre, là, je crois que James l'a légèrement évoqué, c'est sa conférence de presse d'après-match, où il évoque un match raté, un match médiocre. Il dit que c'est pas tactique. Moi, je suis clairement à 200% pas en phase avec lui. Et il parle de l'effectif. Donc, ça me dérange. L'effectif, il y a 15 jours, 3 semaines, il a dit qu'il avait bien régénéré. Il a dit qu'il avait fait ce qu'il fallait. Donc voilà. Mais bon, je reste sur ce que je t'ai dit au départ. Ouais, je le vois encore en poste. Donc là, j'ai regardé l'entretemps. On joue l'OM et Strasbourg. Alors après, si on perd les deux, faudra voir.
Merci JC James. Bon, je vais reposer ma question de manière un petit peu provocatrice, hein, tu m'en voudras pas, mais Gourvennec, stop ou encore?
Pour moi, il était viré après le match de Laval, hein, dans mon livre. Là, non, mais en plus, tu l'as souligné à juste titre. Pour moi, c'est un entraîneur comme l'a pu le faire Kombouré dans une, bah, dans sa fin, en fait, on va dire. Hein, il a un souffle, un complexe d'infériorité à cette équipe. C'est fou, en fait. Tout simplement, en les mettant dans les mauvaises dispositions, en un peu rejetant la faute sur eux à chaque conférence de presse. Justement, il se remet jamais en question. Et pourtant, on le voit. Enfin, je suis pas d'être un.
Excuse-moi, James, je me permets de te couper et de rebondir parce que tu sembles vouloir dire finalement que là, avec cette défaite-là, ça pourrait avoir des répercussions sur le groupe négatives à court terme.
Ben oui, de toute façon, on le sait bien. Les joueurs, ils ont un problème avec ça. De toute façon, moi, je le dis. Hein, Aristouille, c'était déjà le cas. Aristouille a été lâché par la moitié du vestiaire, des cadres en tout cas du vestiaire. C'était plus facile pour la direction et les médias de taper sur lui et de le virer, tout simplement. Et là, bizarrement, les mêmes joueurs qui avaient du mal à la compréhension des consignes, etc., etc., je vise personne. Pas, ils aiment bien Gourvennec, il faut m'expliquer. Le gars est médiocre, mauvais à chaque match. Ses compositions, c'est calamiteux à chaque match. On se fait éliminer par Laval en Coupe de France, faut se rendre compte de la chose aussi. Plein de choses comme ça qui ne vont pas et qui a l'air d'être normal pour eux, pour la gestion aussi, que ce soit les Kita, etc., etc. Pour eux, Aristou, c'était compliqué d'être serein avec ce classement et avec ce nombre de points par match en moyenne. Gourvennec fait moins bien. Mais non, tout va bien en fait. Donc, bah, s'ils veulent, comme j'ai dit à plusieurs spaces, ils se satisfassent pardon, de leur médiocrité. Ça change pas, ça changera pas. Donc, j'espère qu'ils vont descendre en Ligue 2 et c'est ce qu'ils méritent. Objectivement, c'est ce qu'ils méritent. Quand tu travailles mal, tu mérites de descendre. C'est tout simplement, tu récoltes ce que tu sèmes en fait dans le football. Pour moi, il n'y a pas de secret.
Paul, je vais juste
Paul, tu es
rebondir
d'accord
sur ce
avec
que
ça,
dit Jam.
Paul? Ouais, tu me permets.
Vas-y, vas-y, j'y sais.
Ouais, je voulais juste dire, là où je rejoins, j'ai pas envie qu'il descende en Ligue 2, hein, ça, je suis pas d'accord avec Jabs. Par contre, ce qui est détonnant, c'est quand tu regardes nos confrontations directes avec Metz, donc sur l'ensemble des deux matchs, on prend 5-1 contre Metz. Si tu rajoutes clairement la défaite à domicile, c'est dégueulasse. Et j'ai plus, il y a un autre adversaire de bas de tableau qui est venu gagner là. Enfin, il y a un moment donné, faut qu'on se pose des bonnes questions quand on joue contre ces équipes de bas de tableau. Voilà, parce que là, et c'est vrai que la remise en question de Gourvennec là-dessus, ben ouais, c'est caca culotte avant de commencer le match, c'est problématique. Vas-y, Paul, excuse-moi.
Non, bah moi j'ai sur le dossier Gourvennec, j'ai une stat inquiétante, c'est que Stéphane Moreau, l'entraîneur des 19, a plus de victoires à la Beaujoire que Jocelyn Gourvennec, avec deux qualifications en Youth League. Mais non, comme l'a très bien dit James, non, Gourvennec, c'est. Moi j'étais encore, je fais partie des derniers qui le soutenaient jusqu'à encore 15 jours, 3 semaines. Mais là, c'est plus possible. On régresse. On a progressé un petit peu. Je trouvais qu'il y avait des concours de circonstances qui ne lui convenaient pas. Voilà, des problèmes d'arbitrage. Des fois, on passe à pas grand-chose de basculer, de renverser un match. Mais là, non, Josselin, c'est des systèmes. J'ai notamment l'écho que son discours en avant-match, c'était on va chercher le match nul contre Metz qui a pas gagné depuis le 26 novembre.
T'as eu
Donc non,
cette
c'est.
information-là, Paul, que du coup il cherchait un point?
Oui, j'ai l'information que Nantes chassait le discours qui a été prononcé aux joueurs, c'était on chasse un point.
D'accord, effectivement.
Bah, quelle tristesse, sérieux, quelle tristesse. Moi, ça me rend fou d'entendre ça, hein, sincèrement. Et j'étais, moi, comme Paul, fervent supporter de Gourvennec, et ce que j'entends me donne mal au ventre, parce qu'encore une fois, ces Messins, tu les bousculais un peu. On gagnait, mais facilement.
Mathis?
Non, mais ça rejoint ce que j'ai dit là-dessus juste avant. En fait, c'est un complexe d'infériorité qui a insufflé à tout le groupe, tout simplement. Que ce soit dans les conférences de presse, que ce soit dans les après-matchs, que ce soit aussi du coup, les discours d'avant-match. Enfin, il faut se rendre compte. Le gars nous handicape plus qu'autre chose. Aussi bien avec ses choix de coaching, qui sont pour moi incohérents, aussi bien avec ses 11 de départ, et aussi bien avec ses prises de parole. La seule chose qui fait que les médias ne lui tapent pas dessus, c'est quoi? Il accorde des conférences de presse, il accorde des discours, machin, les interviews, les entretiens, tout ça, tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi Aristouille était incendié avec des résultats match nul contre Marseille à domicile à 10 contre 11. Et voilà pourquoi maintenant Gourvennec est conforté dans sa médiocrité avec ses résultats de merde, tout simplement.
Excuse-moi, Paul, je vais faire réagir Mathis d'abord et puis tu pourras réagir aussitôt.
Ouais, on parlait de la comparaison Aristouille-Gourvennec, mais au moins quand Aristouille, les matchs qu'on perdait, au moins il y avait un petit peu de suspense et on s'ennuyait pas. Parce que là, quand même, cet après-midi et ces derniers temps, j'ai l'impression de revoir Nantes quand j'étais enfant en Ligue 2 avec des joueurs plus étonnants que les autres. Donc vraiment, au moins avec Aristouille, il y avait un petit peu de suspense. Là, tu parlais du match nul contre Marseille, contre Monaco. Il y a eu des matchs aussi où ça s'est pas joué à grand-chose, mais au moins il y avait du suspense. Là, ces derniers temps, c'est néant. Il n'y a aucun suspense. On s'ennuie, on s'endort. De dire à ces joueurs qu'on arrive pour prendre un point contre une équipe, enfin désolé pour les Messins, j'espère qu'il n'y en a pas qui écoutent, mais quand même c'est une des pires équipes de Ligue 1, ça se voit techniquement, ils sont faibles, ils n'étaient pas solides, il suffisait comme a dit JC, de leur mettre la pression pendant les 15-20 premières minutes, et je suis sûr qu'on aurait pu vraiment les embêter, mais le problème c'est que, on en a parlé au début, je ne sais plus qui a dit ça, mais le problème c'est qu'on les a mis dans le match avec une erreur de Zézé qui donne un ballon, une patate chaude à Lafond. Et Lafond qui, au lieu de relancer sur un côté, il relance n'importe comment. Et derrière, il y a un contre. Il y a un contre. Et il y a le mec qui, d'ailleurs, se rate complètement. D'ailleurs, on ne sait pas où est Coco sur cette action. Il se rate, ça fait poteau. C'est quand même un premier avertissement. Mais derrière, les Messins, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ah ben, on va pouvoir bouger Nantes cet après-midi. On va pouvoir les embêter en contre et même dans le jeu. On voit que défensivement, ils sont friables. Et derrière, ils ont pris confiance. Et nous, au contraire, on a perdu toute la confiance. Et au final, on méritait peut-être même, au final, de jouer le match nul vu la tronche du match. Donc peut-être qu'au final, Gourvennec, vu la performance des joueurs et de sa tactique, avait raison.
On était plus proche du 3-0 que du
Ah
2-1.
bah bien sûr, quand on voit le centre, je sais plus, à un moment ils sont 4 au point de pénalty, et le mec, c'est à 0-0 ça il me semble, et le mec il le fout sur le
Tout à fait.
périphérique, tu te demandes ce qu'il rate. C'est là où on voit la faiblesse quand même de Metz, c'est que les mecs sont 4 et ils sont pas capables de la mettre au fond alors que Lafond était à peine, je crois, il était plus dans ses buts puisqu'il était sorti sur le latéral.
Paul, tu voulais réagir?
Ouais, simplement, je viens d'y repenser. Le principal argument de Franquita pour avoir viré Pierre Aristouille, c'est pas possible d'en prendre trois contre la pire attaque du championnat. Metz est la deuxième pire attaque, je crois. Ils sont clairement fait pire. Et est-ce que ce sera un argument qui va être cité dans les prochains jours pour le limogeage de Jocelyn Gourvennec?
Tu penses que ça peut être imminent ou tu penses qu'il y a encore un peu de temps?
C'est pas possible que je crois les quatre je crois que Metz a 4 ou 5 victoires en championnat et 2 soient contre Nantes. On est capable de relancer cette équipe et c'est pas quelque chose qui est normal quand tu prétends. Bon, je suis d'accord que le bas de tableau est très serré, mais voilà, on est capable de gratter des points contre des équipes qui jouent l'Europe et on n'est pas capable d'assurer un même un Enfin, c'est triste à dire, on n'est même pas capable d'assurer un match nul contre une équipe qui va descendre en Ligue 2 et c'est quasiment acté.
Ouais, effectivement, je suis d'accord. Bon, je vous propose de clôturer ce troisième point et de passer donc au quatrième. Et j'ai isolé un point qui est, selon moi, l'un des révélateurs un petit peu de ce changement de match. Même si je rejoins un petit peu Mathis sur l'histoire avec Alban Lafont et la patate chaude de Zézé, effectivement, on a vu à ce moment-là que l'équipe nantaise avait pris un petit coup sur la tête. Mais sinon, je remonte un petit peu plus tard dans le match avec donc le penalty et la faute de Mohamed. Moi, j'ai eu un petit peu l'impression de faire un retour en arrière, comme face à Rennes, où Mohamed sort de son match et se prend un rouge. Et là, je me suis posé la question si son geste, un petit peu d'aller tacler très fortement en défense, parce que le penalty est, selon moi, assez indiscutable, est-ce que c'est un signe d'agacement aussi de ce qu'on a pu voir sur le terrain? Est-ce que vous l'interprétez aussi de cette manière-là? JC?
Non, je suis pas trop de ton avis. Mohamed, c'est plus de la maladresse. Et contrairement penalty, et tu dis, très généreux. Pas de contact, hein, mais le Messin joue très bien le
Excuse-moi,
coup.
JC, c'est moi
Et je trouve.
Ou tu sais,
Ouais,
il
tu
est.
bugs un
Non,
peu,
tu sais,
j'essaie,
bug.
tu bugs un petit peu.
Il va sous un tunnel,
Tu m'entends là?
bah, tu passes sous un
Tu
tunnel,
m'entends?
on dirait.
Là, ça a l'air d'être
Dans
bon.
deux
Là, ça a
secondes.
l'air d'être bon, là.
Vas-y, j'y sais, tu peux y
Est-ce que tu
aller.
m'entends?
Oui, c'est bon.
Ouais, excusez-moi. Ouais, je disais que j'étais pas du tout de ton avis par rapport à cette histoire de pénalty concernant Mohamed. À mon sens, la faute est très légère. C'est juste, il lui tape dans le pied et l'attaquant messin joue très bien le coup. Et je pense que c'est de la naïveté d'un attaquant parce qu'il est dos au but, il n'y avait pas situation et péril pour que le score change et qu'il mette une frappe sous la barre, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était de la maladresse et j'ai trouvé aussi, alors je sais pas, Paul a dit tout à l'heure qu'il pensait peut-être que Mohamed était fatigué avec ses courses dans le vide en première mi-temps, mais j'ai cru comprendre quand même que c'était une petite sanction de Gourvennec. Contre Mohamed d'avoir fait faute sur ce penalty.
Non, le changement était prévu avant le penalty.
Ah, tu t'es sûr?
Oui, c'est ce que Gourvennec a dit dans la conférence de presse.
Bon, ok. En tout cas, sur le changement de Mohamed, comme disait James tout à l'heure, quand tu perds 1-0, tu sors pas ton canonnier, quoi. On sait que Mohamed, bon, il a loupé la tête à de très peu. Mais tu sors pas Mohamed, quoi. Je veux dire, tu as besoin de scorer et tu changes trois fois ton système en deuxième mi-temps. Tu fais rentrer Abline, qui est un joueur plus que moyen. Enfin, il se renie en faisant ça, quoi. C'est pas logique.
James?
Oui, je rejoins JC. Moi, l'argument du fait que Mohamed pouvait être un peu en dessous du point de vue physique, je peux le comprendre. Cependant, je ne suis pas d'accord avec ça. Mohamed tenait bien les matchs à la CAN. Et en plus, tu peux aussi le mettre dans des dispositions tactiques pour qu'il soit moins.
Excuse-moi, James, moi je reviens sur ma question de départ. Ma question de départ, c'est est-ce qu'on n'observe pas chez Mohamed quand même une forme d'agacement dès qu'il touche un peu moins de ballon, dès que le match se déroule pas comme prévu? Est-ce qu'on vient pas pointer? On est tous assez fans de joueurs là, on l'a dit encore le dernier space, mais est-ce qu'on pointe pas un petit peu son talon d'Achille et son chat noir sur cette situation-là? Parce que bon, Magicien, lui, pense que c'est de la maladresse. Moi, je pense que c'est vraiment de l'agacement parce que le match se déroule pas comme
Oui,
prévu.
on peut pointer son manque de sang-froid si tu veux. Ah, Bobard, excuse-moi.
N'est pas de mal.
Mais le problème, c'est que pour moi, dans mon livre, je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant de sang-froid, même d'ailleurs. Pour moi, le penalty, ok, il y a contact, etc. Mais pour ma part, c'est pas volontaire. C'est pas en mode il y va pour faire penalty. Et ensuite, son agacement, pour moi, il est compréhensible. C'est un attaquant de pointe. Il n'est jamais servi. Les compositions de départ sont pas faites pour qu'il soit mis dans de bonnes dispositions. Rien n'est fait pour qu'il soit bon et performant. Il doit faire tous les efforts défensifs, les pressings, et ensuite il doit aussi pouvoir être performant pour pouvoir faire les contre-attaques et pouvoir marquer. On lui demande de tout faire en fait. À un moment donné, il faut
Je suis
arrêter.
100% d'accord.
Je peux me permettre juste un petit commentaire par rapport à
Vas-y, vas-y,
Mohamed.
vas-y.
Je vais juste dire, et je pense que les commentateurs, notamment je crois que c'était Prime également, ou enfin, peu importe, au Canal, ils avaient souligné avec justesse une bonne association entre Kadewere et Mohamed. Bah, ces deux-là, on ne les a pas vus ensemble aujourd'hui. Donc, encore une fois, on retombe sur Gourvennec, mais quand tu as deux joueurs qui s'entendent bien, on l'a vu en fin de match sur des sourires, et qu'on ne les fait pas jouer ensemble, bah, c'est encore une fois une erreur.
Exactement ça. Et pour terminer là-dessus, pour ma part, c'est vraiment t'handicaper que de priver tes automatismes offensifs en fait avec le temps. Parce que pour ma part, vouloir des résultats en un match ou en deux matchs, du point de vue offensif, du point de vue automatisme et du point de vue connexion, on va dire, entre les joueurs, ça remonte de la folie en fait, tout simplement. Ou il te manque des cases, ou alors tu le fais exprès en fait. Tu vois, c'est une excuse bidon, tout simplement. Pour ma part, c'est faut arrêter les excuses bidons, faut arrêter de se voiler la face, de faire l'autruche, et il faut dire les choses à un moment donné. Il est mauvais,
Mathis,
très mauvais.
merci James. Mathis, un avis sur la question?
Ouais, bah, Mohamed, je pense aussi, comme j'y sais, c'est une faute un petit peu classique d'attaquant sur un coup de pied arrêté où bah, il va au duel et il n'a pas l'habitude et puis il se fait un petit peu avoir parce qu'effectivement, l'attaquant, enfin, je crois que c'est même un défenseur hein, de Metz et il joue vachement bien le coup. Mais c'est vrai qu'en y repensant, dans ce match-là, il joue combien? 60 minutes au moment de sortir. Il a une action et c'est sa tête qui passe au-dessus et qui est quand même pas facile à mettre. C'est pas un cadeau. Il doit avoir un peu plongé, même si pour moi Il a le calibre et le niveau, je pense, pour la mettre au fond. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Et puis, enfin, il n'est pas aidé, quoi. Simon, c'est le seul gars qui lui donne des ballons au final. Il n'y a personne, il n'y a pas un mec du milieu de terrain.
Bah,
Je suis
c'est
sûr
ce
qu'on
qu'on
est
a dit
capable
tout
de
à
faire
l'heure, ce
ça.
sont les pistons, et je crois que c'est toi qui évoquais ça tout à l'heure, hein, les
Exactement,
pistons
il y a.
n'ont pas suffisamment à porter, et de mon regard, chaque fois dans ce genre de match-là, on voit un Mohamed qui s'agace. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a le match Lorient, on a beau marquer 5 buts sur ce match-là, au moment où il met son coup franc, il commençait à sortir de son match, Mohamed. Il met son coup franc, il se met dedans, mais il sortait de son match.
Et oui,
Paul,
parce
tu voulais
qu'il.
réagir?
Ouais, je voulais réagir pour moi sur un joueur dont on ne parle pas et qui pour moi est
Ah,
transparent, c'est Pedro
tu veux pas
Chirivella.
répondre à mes questions d'abord?
Excuse-moi, rappelle-moi ta question.
Je proposais un petit peu le penalty de Mohamed, un petit peu comme bah, le point de chute de ce match-là, et puis le fait que bah, notre attaquant égyptien, dans ce type de ce match-là aussi, il perd un peu son sang-froid.
Oui, voilà, bah, c'était par rapport à ça aussi que je voulais réagir, mais dans un premier temps, pour répondre à ta question, pour moi, non, c'est pas un synonyme de frustration, mais c'est synonyme de quelque chose qui est révélateur. C'est que c'est Mostafa Mohamed qui est obligé d'aller défendre. Bon, c'était sur un corner, mais c'est Mostafa Mohamed qui est obligé d'aller défendre parce que nos trois défenseurs centraux sont apathiques devant la surface de réparation, enfin, dans la surface de réparation. Mais on peut sentir peut-être une frustration de la rencontre, et c'est là où j'en viens à Chirivella. Chirivella, je sais pas s'il a compris le principe du football, mais c'est pas du rugby. On a le droit de faire des passes en avant. Lorsqu'il faisait reculer des ballons sur des phases offensives où il y avait de la place, où il y avait Simon qui partait, bon, il y a Coco qui se proposait aussi. Mohamed, au bout d'un moment, je comprends qu'il en a marre de faire des courses pour essayer de se proposer, pour qu'au final, ah, bon, on va refaire un tour au ballon. Et puis on va voir ce qui se passe. Donc oui, je comprends qu'il y ait une certaine frustration. Et voilà, c'est de la dépense d'énergie pour rien. C'est ce qui nous prive aussi de notre pharaon pendant les 90 minutes.
Mathis, tu voulais rebondir sur ça?
Ouais, bah déjà, le nombre de passes en retrait, c'est complètement aberrant. C'est hallucinant de faire autant de passes en retrait. Mais moi, je l'explique par une chose, c'est que je pense que les joueurs, ils ne sont pas assez à l'aise techniquement pour parfois jouer de l'avant et pour faire les passes qu'on appelle à risque, qui sont là pour casser des lignes. Et du coup, bah, ils n'osent pas. Et puis, au bout d'un moment, ils se disent, bah, pendant le temps de possession, il y a bien un de mes collègues qui va le faire et qui va soit donner un bon ballon, mais bon, on a vu qu'aujourd'hui, il n'y avait pas trop de bons ballons, ou alors qui va se rater. Et puis derrière, bah, c'est lui qui va soit se faire siffler bah, par le public, ce qui peut se comprendre parce que c'est quand même des footballeurs et ils sont quand même capables de faire des passes en avant, comme t'as dit Paul, c'est pas du rugby. Donc je pense c'est aussi ça. Et on le voit, le meilleur exemple c'est Coco. Il ne joue strictement jamais vers l'avant. Il est toujours en train de faire une passe en retrait, soit au milieu de terrain qui vient décrocher, soit au défenseur central qui est à côté de lui, parce qu'il a peur. Il n'est pas capable techniquement, ou alors il n'ose pas parce qu'il sait soit qu'il va rater, soit qu'il va se faire, je sais pas, engueuler par le coach. Enfin, c'est ça qui est surtout décevant, et ça aide pas effectivement Mohamed à recevoir de bons ballons.
Ok, bah écoutez, on va pouvoir clore ce chapitre-là. Je vais vous proposer un dernier échange. Bon, vous y avez un petit peu tous plus ou moins répondu dans les messages précédents, mais je vais relancer le truc quand même de manière un petit peu plus concrète. Est-ce que, selon vous, cette défaite-là, c'est un coup d'arrêt ou il y a quand même certains motifs de satisfaction, JC?
Alors maintenant, il faut être factuel. Il reste 10 matchs, hein, 10 matchs qui vont pas être faciles. On est à 25 points, il faut 35 points. Donc on a encore ce qu'il faut pour prendre ces 10 points, mais il faudra forcément montrer autre chose parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien eu de positif. On va pas se voler la face, hein.
Donc,
Après,
c'est
il y
plutôt un
a...
coup d'arrêt pour toi, alors.
Ouais, c'est un coup d'arrêt qui est assez violent. Parce que tout au long du match, et le truc, on l'a vu arriver, quoi. Quand tu te fais balader par le 17e du championnat, tu as quand même de sérieuses questions à te poser. Gourvennec, je pense qu'à chaud, il n'a pas voulu se remettre en question, mais bon, ses choix sont quand même, on en a déjà suffisamment parlé, merdiques. Et il faudra aussi parler de l'importance d'un joueur qui n'était pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'avais prévu dans tes questions, mais Moussa Sissoko, bah maintenant, pour moi, il est indéboulonnable.
Et ce qui est sûr aussi, c'est que un des débats qu'il faudrait qu'on ait, c'est est-ce que la frilosité peut pas nous emmener vers encore plus bas, quoi. Il faut plus s'inquiéter sur le match ou sur notre frilosité régulière. J'ouvre le débat.
Peut-être que James a une réponse à ça. James?
Autant pour moi. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Charles et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce qu'il y avait avec Kombouaré, c'est-à-dire que après la période Coupe d'Europe, etc., etc., on devait se focus sur le championnat. Pendant les conférences de presse, même s'il y avait des défaites ou des matchs nuls, on disait c'est pas grave, il reste 10 matchs, c'est pas grave, il reste 9 matchs. On reproduisait les mêmes schémas, cette défense à 5, etc., etc. Offensivement, c'était compliqué. On manquait aussi de réussite, on peut le souligner. Mais là, en fait, on reproduit un peu ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va bouger. Gourvennec ne se remet pas en question. Les mêmes dispositifs vont être mis. Il a bien mentionné que pour lui, c'était le plus stable, donc il va continuer avec son 5-3-2. Et je vois pas ce qui peut changer en fait. Je vois pas ce qui peut. Pour moi, c'est un peu un coup d'arrêt en fait. Si tu fais ça contre Metz, si ce n'est te remettre en question et faire des changements, clairement, tu reviens sur tes propos, tu fais des mea culpa, il n'y a pas de souci. Je vois pas comment on peut. Franchement, je vois pas.
Donc tu t'attends que la semaine prochaine, enfin le prochain match, il change la
Ça,
compo.
je regarde, je m'attends pas. Non, non, je m'attends à rien avec lui en fait. Ça, le problème, c'est que je m'attends plus à rien avec lui. Il est mauvais et il va rester dans sa calamité là, dans son 5-3-2. Et voilà, je sais d'avance. Je vous l'ai dit déjà le résultat d'avance avant le match. Et ça fait déjà des semaines que je dis que Gourvennec est mauvais. Pour moi, il devait partir après le match de Laval. Il n'est pas parti. Ok, si vous voulez, les quittas, si vous êtes plus serein avec lui aux commandes, il n'y a pas de problème. Pour ma part, hein, voilà. Et non, la semaine prochaine, il va continuer avec 5-3-2, mais il faut aussi regarder les adversaires. Toulouse a gagné. Lorient est en train de gagner face à Rennes. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le score depuis le 1-0, mais voilà, il faut regarder ça aussi à côté de nous. Tu relances Metz, qui sont certes un peu plus bas que nous en termes de points, mais tu les relances quand même. À un moment donné, il faut être réaliste. Tu as un effectif pour jouer. Et vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Pour moi, tu regardes d'une manière objective les noms de l'effectif, tu peux jouer les hauts de tableau. J'ai pas aller. Tu peux taquiner l'Europe, tu vois. Tu peux taquiner la Conférence League, etc.,
Tu
etc.
peux aller chercher au moins les 10 premières places, quoi.
Et sincèrement, qu'on vienne me dire le contraire, je serais heureux de parler de ça là-dessus et
Oui,
de
non,
mettre
mais
la. Voilà.
OK.
Des Kissoko, des Augusto, des joueurs qui pourraient être, voilà, dans pas mal de bons clubs. Pour ma part,
Ouais,
j'ai pas
mais
de soucis.
tu vois, comme tu l'as dit, pour moi, il y a un truc, enfin, et c'est un petit peu
Attends,
ce que le
attends, je
match.
vais juste terminer là-dessus. Il y a un coach qui est arrivé, qui a un peu bouleversé la hiérarchie, c'est Aristouille. Aristouille était en train de créer un truc avec le club, c'est-à-dire un engouement, que ce soit du point de vue des supporters et même sur le terrain. On voyait les résultats au fur et à mesure des semaines, on le voyait les résultats. On le voyait, on le voyait, on le voyait, on le voyait. Et petit à petit, les joueurs ont commencé à dire, ouais, non, je comprends pas les consignes, je comprends pas machin. Il y a eu des frictions internes. Et voilà, donc du coup, il est parti. Maintenant, on
Oui,
retourne à
voilà, ouais.
Gourvennec. Gourvennec est censé nous maintenir. Comment c'est possible qu'il puisse nous maintenir si depuis qu'il est arrivé, hein, il enchaîne les records de défaites et il produit aucun jeu. Il fait que insuffler des complexes à notre équipe, je comprends pas.
Paul, tu voulais réagir?
Moi, pour moi, faut casser, je dirais pas les dynamiques, mais faut casser les états d'esprit
Paul, excuse-moi,
dans les
tu peux faire
coachs.
juste un aparté. Lorient va gagner à Rennes, hein, ils viennent de mettre le deuxième.
Ouais, Montpellier a fait deux partout contre Strasbourg.
Ok.
Et ouais, donc pour moi, en fait, faut prendre un coach avec une philosophie totalement opposée, parce que malgré tout, malgré qu'il y ait des petites différences, bah d'ailleurs, deuxième but de Lorient, 2-0. Voilà, Gourvennec, Aristouille, Kombouaré, ça reste des schémas tactiques qui sont finalement relativement proches. Est-ce qu'il faudrait pas prendre un entraîneur étranger, comme on avait fait le pari à l'époque de Conceição? Voilà, un entraîneur à soit l'anglaise, soit la portugaise, mais voilà, un entraîneur qui casse un peu, je dirais, cette philosophie française d'aller gratter un point et d'être satisfait avec ça, et d'avoir vraiment un entraîneur d'un championnat où ça joue.
Sergio
Il y a
Conceição,
des
je l'aime
coups.
pas. Je dis ça, c'est un vieux rêve d'enfant, mais je le place dès que je peux. Hein.
Ah bah, il a annoncé qu'il quitterait Porto cet été et il est dans les petits papiers du Barça.
Et de Kita aussi. James?
Oui, bah, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps ici. Tu vois, tu comprends, les Kitaï n'ont pas le temps. Il faut tout de suite changer, il faut pas laisser le temps de construire. Et il pense qu'en fait, dès que tu perds un match contre un adversaire qui peut être inférieur à toi, ok, il y a des matchs, tu peux le rater, il n'y a pas de problème. Franchement, ça arrive. Mais il faut du temps pour construire quelque chose. Là, le problème, c'est qu'on arrive à un point où tout ce que fait l'entraîneur actuel, je veux bien lui laisser du temps à Gourvenec si vous voulez, mais le résultat, ça va être quoi? Ça va être une descente en Ligue 2. Et comme tu dis, là, 2-0 pour Lorient, Toulouse qui gagne 2-1 à Nice, expliquez-moi objectivement. Comment on peut se relever un peu entre guillemets et comment on peut, tu vois, comment tu veux en fait, objectivement, si tu perds contre Metz comme ça?
Bah, moi, je vais essayer de répondre si tu veux, James. La question que je me pose, c'est que je me tourne vers le prochain match. Si tu mets le bus ou le minibus, selon les termes, face à Metz à la maison, je crois qu'on va jouer en 7-2-1 contre l'OM, quoi. C'est-à-dire qu'on va même prendre Mongo, on va faire jouer tout le monde. C'est ça qui me dérange.
Et même là, on va perdre.
Jouer la sécurité sur certains matchs, moi, ce n'est pas un problème. Comme dit Paul, c'est le championnat, il est comme ça. C'est comme ça qu'on se maintient. J'ai souvenir, je crois que c'est Dijon qui avait un bon fond de jeu à l'époque où ils sont descendus. On voit le résultat. Donc, je pense qu'il faut une touche de pragmatisme, une touche d'ambition. Et là, Gourvennec, qui s'est fourvoyé, c'est vrai qu'on lui tombe beaucoup dessus cet après-midi. Encore une fois, c'était pas le Real Madrid face à nous. Donc ouais, quel compo il va nous sortir face à l'OM? On va aller à 10 derrière.
Non,
Exactement ça.
où tu prends la technique d'Angers. Tu prends la technique d'Angers à l'époque, c'est-à-dire tous en attaque, on marque le but du 1-0 et puis tu passes en dispositif 10-0-0. T'inquiète pas, ça marchait. Ils finissaient 14e à chaque saison avec un effectif de merde.
C'est une
Ça, mais le
hypothèse.
problème, c'est que tu poses le bus contre Metz, mais même là tu perds en fait. Non, c'est drôle quand même, fou. Non, mais c'est fou. J'arrive même pas à me rendre compte de ça. Tu vas poser un schéma tactique avec 7 joueurs à vocation défensive contre Metz, la pire équipe de Ligue 1, qui n'a pas gagné depuis 10 matchs, depuis 4 mois, hein, et tu arrives à perdre comme ça. Non, mais il faut se rendre compte de la singerie quand même. C'est une folie. C'est une folie. Et lui, il va nous maintenir. Et donc pour l'Equita, là, on va pas le virer. Il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de pression. Il n'y a rien en fait. Même du point de vue des médias, ça que je trouve encore plus lunaire. Les médias lui font les yeux doux. Il faut m'expliquer, s'il vous plaît. Il n'y a aucune question pour le remettre en question, aucune question pour lui mettre face à ses incohérences, rien du tout. Il est conforté dans sa merde.
Je pense que là, il avait quand même sur les 3 derniers matchs deux victoires. Donc après, là, c'est sûr que le scénario est en train de repartir dans le pire, quoi.
Oui, mais regarde Toulouse, c'était un rien de prendre le 2-2.
Les gars, je vais continuer mon tour.
C'est des victoires dégueulasses, c'est des victoires sur le fil, sur le bout du fil.
Jam, je vais
Oui.
continuer mon tour là, pour demander l'avis de Mathis. Là. Je vais reposer un petit peu ma question. Est-ce que toi, au moins, tu vas essayer de nous trouver des petits motifs de satisfaction de ce match-là où il n'y a vraiment rien à retenir et c'est un gros coup d'arrêt?
Ben moi, je vais parler de la relation, j'en ai parlé tout à l'heure, de la relation Kozza-Simon. Voilà, ça peut être un... ça, on sait que malheureusement, toutes nos actions viennent de Simon et de ce côté-là. En même temps, au vu de la faiblesse de l'autre côté, ça peut se comprendre. Mais du coup, ouais, je dirais que ça, c'est peut-être le seul truc un petit peu positif. Et de toute façon, selon moi, si on... je pense qu'on va quand même se maintenir. Parce que la Ligue 1, faut quand même le dire que c'est un niveau extrêmement faible, même si elle est à 18. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Que si on n'arrive pas à se maintenir, c'est juste qu'on le méritera. Et qu'on ira jouer contre Valenciennes un mardi soir, ça sera juste mérité. Parce que vu le niveau, c'est... Enfin, je trouve qu'on a, comme disait James, je dirais pas qu'on a la qualité pour jouer un effectif plutôt pour jouer le haut de tableau, mais on a un effectif pour finir au-dessus de là où on est, ça c'est sûr. On a des Quand on compare les effectifs des clubs qui sont autour de nous, on est quand même au-dessus. On a des joueurs qui sont en équipe nationale, qui sont titulaires, on l'a encore vu avec ceux qui sont partis à la CAN. Donc je
Oui, et
pense
puis sur
que
certaines
ces joueurs-là.
prestations, on a pu voir aussi, je te rejoins
Ah
là-dessus,
oui.
sur certaines prestations, on a pu voir, donc il y a la qualité de l'effectif, mais il y a aussi certaines prestations qui étaient de belle qualité.
Ah oui, c'est sûr. Après, j'estime que en Ligue 1, tous les clubs font peut-être dans la saison, même les clubs les plus mauvais, font peut-être 4-5 grandes performances qui, on va dire, peuvent sauver leur saison. Moi, je pense qu'on va en faire, on va en faire, on va faire certaines bonnes performances et c'est ce qui va nous permettre de nous sauver, même si c'est quand même grave parce que je me dis qu'en 4 saisons, on va sauver à l'arrache 3 fois sur 4. Ce qui est quand même décevant pour un club comme le FC Nantes qui devrait quand même avoir une autre ambition que jouer les bas-fonds de cette faible Ligue 1.
Et exactement, et je repense aux propos de Valdemar Quita à l'issue du match d'Angers la saison précédente. Le but, c'était vraiment de retrouver autre chose cette année. Il nous l'avait plus ou moins promis. Tu voulais terminer, Mathis, pardon?
Ouais, je disais, c'est peut-être pour ça qu'au final, ils ont osé changer.
C'est ça même.
Gourvennec pour Aristouille, parce qu'il leur restait du temps dans la saison. Ils se sont dit, ah bah peut-être qu'on peut jouer autre chose. Le problème, c'est que
ils sont craqués. Hein.
Changer parce que maintenant c'est trop tard. Maintenant, c'est on joue le maintien ou rien. Et s'il y a un nouveau coach qui débarque sur les bords de l'Erdre, ça va être, ça va être maintien ou rien, et ça va être encore, je ne sais pas si ça sera pire ou mieux, enfin, on n'en sait rien. Mais ce qui serait bien, ce serait peut-être d'avoir un nouveau coach qui peut commencer à construire en cette fin d'année pour espérer mieux la saison prochaine.
Ok, merci Mathis. Bon, écoute, JC, on arrive à une heure de space. Je pense que c'est ton moment. C'est le moment où tu nous proposes des notes. C'est possible pour toi ?
Ouais, c'est parfait. Ouais. On va continuer. Bon, comme vous l'imaginez, ça va pas voler très très haut. Puis après, on fera les tops et les flops. Donc, moi, j'ai pris les moyennes sur Cockpit, hein, partenaire au même titre que Tribune Nantaise, qui est là via l'intermédiaire de Paul. On va commencer par Alban Lafont, qui a eu une moyenne de 4 sur les différents votants. James, je sais que t'es pas spécialement fan de Lafont. Alors Lafont, effectivement, son 4 doit être motivé par notamment une relance qui est pas simple à gérer à mon sens. Il aurait peut-être pu faire mieux, mais Zézé lui fait pas un cadeau. Il fait une belle parade sur le corner à un moment donné. Voilà.
Même le corner, je suis absolument pas d'accord. Le défenseur tire sur lui. Hein. Donc si là il l'arrêtait pas.
Je lui en veux plus sur la tête.
Ouais, non.
Sur la tête,
je suis d'accord avec toi, mais je te dis que sur la tête, encore heureux pour moi que tu l'arrêtes. Encore heureux pour moi que tu l'arrêtes vraiment.
Oui, j'entends, mais bon, c'est une parade réflexe. Par contre, oui. Sur le 2.
En fin de match, il fait une bonne sortie. En fin de match, il fait une bonne sortie dans les pieds de l'attaquant pour arrêter un énième contre où la défense est prise de vitesse.
Moi aussi, il est dit que 3-0.
Il a eu 4. Après, moi, je trouve que sur le deuxième but, la tête, c'est rapide, hein, mais. Avec son envergure, il aurait dû plus faire quelque chose, quoi, à mon sens.
Oui, pour finir globalement, vite fait, mon avis sur Lafont. Oui, non, j'ai rien contre lui en tant que tel. Hein. Je l'aime pas parce qu'il est mauvais pour l'instant, tout simplement. Quand il était bon, je l'aimais bien parce qu'il était bon, tout simplement. Je suis objectif quand même. Faut souligner quand il est mauvais et quand il est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cependant, ça fait des semaines qu'il est mauvais, qu'il est médiocre, et je le souligne tous les jours, enfin tout le temps au space. Je le dis. Décan, c'était pas forcément mieux, je vous l'accorde. Ok, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Décan, il y a 2 semaines, c'était pas forcément mieux, pas de problème. Cependant, le premier début de cette partie de saison, c'était largement mieux. Et on peut aussi, au fait, souligner que Décan n'a pas vraiment prolongé son contrat. Il était de revenu de blessure. Et on peut aussi prendre le contexte du fait que il est traité un peu entre guillemets comme un chien ici. Il joue même plus la Coupe de France, donc on peut aussi souligner pas mal de choses pour un peu excuser son niveau. Quant à Alban Lafont, quand tu viens de prolonger, t'as aucune excuse. Voilà.
Oui, non, mais je pense que tout le monde est d'accord pour la note de 4. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter.
Tu peux passer aux défenseurs.
D'accord, ok. Alors les défenseurs, on va commencer par la note la pire. Palois 3,9. Ensuite on trouve Kozza à 4,4. Zézé 4-6 et Castelletto 4-7. Moi je vais juste revenir sur la note de Castelletto.
C'est la meilleure note du coup, Castelletto, c'est ça ?
Des défenseurs 4,7. Alors je trouve que Castelletto, pour moi, il n'est pas fautif sur les buts. Il a été à un moment donné même à défendre en tant qu'arrière gauche. Donc j'ai trouvé, et pour rebondir sur ce qu'on disait, je crois que c'est notamment Mathis qui disait que c'était notre meilleur défenseur. Je pense qu'il aurait mérité un poil plus. Après. Palois, dans le système, encore une fois, quand en fin de match, notamment sur le deuxième but, Palois, il doit faire faute. Hein, Douglas Augusto fait faute, le joueur tombe. Palois tente une faute, alors qu'il n'avait pas de carton jaune, il doit le plaquer, le joueur. Mais il était à la ramasse totale, mais c'est quand il y a de la profondeur, on sait que.
Tu nous as pas donné la note de Coco ?
Coco, je l'avais mis en milieu. Alors, Coco, excuse-moi, j'ai pas retrouvé. 2 secondes, je vais te dire. C'est vrai que Coco était défenseur. Coco a eu 3. Donc lui aussi saqué. Je pense que ce qu'a fait mal un peu, bah, c'est son positionnement sur le but et un déchet technique monumental.
Ok, je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ça. Si ce que tu on enchaîne avec les milieux, JC.
Ouais, on va enchaîner avec les milieux. Alors, la plus mauvaise note revient à Mollet, 3,1. Douglas, 4,5. Et Pedro, 3,7.
Bon, là, il paye peut-être, c'est là le lien que je voulais faire, il paye peut-être l'absence de Sissoko. Peut-être que les gens l'ont imaginé dans le même rôle que Sissoko et c'est pas du tout le même profil.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Après, ouais, je sais pas ce que lui a demandé encore une fois Jocelyn Gourvennec au niveau du match, mais si c'était pour être ailier droit, c'était encore une fois une mauvaise idée parce qu'on a bien vu que depuis la saison, à chaque fois qu'il était là, il était un peu perdu. Alors c'est dommage parce que ce joueur a une grosse activité. Mais j'ai l'impression qu'on ne l'exploite pas. Et Douglas Augusto, alors je vais vous poser la question. C'est vrai que depuis 2-3 matchs, on le sent un peu plus nerveux. Il était sorti, me semble-t-il, la semaine dernière à la 65e, parce qu'il n'était pas loin du rouge. Il a encore pris un carton jaune aujourd'hui. Toi, Paul, t'en as pensé quoi de Douglas Augusto? Moi, je trouve que ça coïncide aussi à notre mauvaise performance, hein, peut-être un peu aussi Douglas Augusto aujourd'hui.
Moi, je trouve que c'est un joueur qui est. Ouais, je sais pas. Je trouvais qu'avant, il avait un peu la joie de jouer. Il était très libre. Il était très limite vaillant dans ce qu'il faisait. Et là, aujourd'hui, je le trouve un peu à l'image de l'équipe, démoralisé, à ne plus savoir quoi faire. Il a du mal à trouver Mohamed. Il a du mal à trouver ses attaquants. Du coup, bah, il fait partie du même système que Chirivella, c'est-à-dire jouer en arrière. Et c'est pas. C'est pas franchement ce qu'on aurait espéré.
Ouais. James, tu voulais réagir ?
Oui, rapidement, sur Mollet. Ce qui est marrant, c'est qu'on en avait parlé la semaine dernière dans le Space, on disait qu'est-ce que ça pourrait donner Mollet à ce poste. J'avais dit que moi, c'était très peu concluant quand il avait été testé à ce poste-là, le peu de fois où il avait été testé justement à ce poste-là, et que pour ma part, ça n'allait pas le faire, tu vois, et on a vu le résultat. Mollet, déjà, pour ma part, il sort un peu comme j'avais dit tout à l'heure, du chapeau du magicien, je ne sais pas pourquoi, face à Metz, alors qu'il était mis au placard il y a 3 semaines, je ne comprends pas. Étonnant. Voilà, exactement. Je pense que c'est aussi une façon de sous-estimer l'adversaire en prenant les joueurs un peu sortis du placard. Voilà. Et pour conclure sur Douglas Augusto, pardon, bah oui, mais c'est un peu le. Pour moi, je reviens toujours, mais c'est le cas, les responsabilités du coach, en fait. Tu leur dis d'assurer le 0-0. Pareil, tout à l'heure, on parlait de Pedro Chirivella qui jouait vers l'arrière. Bah, en même temps, est-ce qu'il a envie de se faire incendier par le coach s'il tente un long ballon vers l'avant et il y a une récupération messine, enfin, mais voilà, messine, et il perd la balle comme ça. Il va lui dire, ouais, t'as perdu le ballon comme ça, machin. En fait, c'est toujours pareil, en fait. Il n'y a jamais de remise en question du coach, mais plus des incendies envers les joueurs, des reproches envers les joueurs, c'est les joueurs, c'est vous avez vu l'effectif, vous avez vu ceci, vous avez vu cela. Alors que non, on a juste vu des mauvais coachings, etc., etc. Augusto, c'est pareil. Je pense que là, bah, il est mauvais parce que le schéma de jeu est mauvais et que les instructions sont compliquées à comprendre, je pense. À tel match, tu vas dire ceci, à tel match, on doit assurer le 0-0, jouer en gros vers l'avant sans trop prendre de risques. Enfin, attendez, on est où?
C'est sûr. Et je vais laisser intervenir peut-être Mathis sur Chirivella. Donc, les notes, c'est 3,7. Je trouve que Chirivella c'est un peu le fusible de Gourvennec parce que je crois que c'est pas la première fois où il sort alors que l'équipe est pas très bien très tôt, mais bon c'est sûr est-ce qu'il y a encore des blessures? Toi, ton avis Mathis là-dessus? Mathis? Donc, si Mathis n'est pas là, Clébard, vas-y, réponds peut-être à ma question.
Endormi.
Mathis, c'est pas là. Non, bah écoute, je sais pas. Effectivement, j'ai trouvé le match très très triste. Et donc la précision de Chirivella m'a pas plus interpellé que celle de Douglas Augusto ou de Mollet. Ça a toujours été mauvais. Les passes en retrait pour moi et leur jeu, c'était l'animation qui posait problème et c'était peut-être leur incapacité à se projeter un peu plus à l'avant. Donc je reviens un petit peu sur les questions que j'ai proposées au départ du Space, à savoir est-ce que c'était les joueurs qui étaient frileux ou Jocelyn Gourvennec? Mais pour revenir à ta question et la prestation de Pedro Chirivella, non, il n'a pas été top. Et Pedro Chirivella, dès qu'il n'est pas encadré par un bon joueur, je trouve, j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer sur les Space, je le trouve toujours moins bon. Je trouve qu'il s'est jamais aussi bien révélé que quand il y a un bon milieu à ses côtés, à l'époque où pendant la période Comboiré, il y avait un bon Toussami ou un bon Cyprien. Et pareil, depuis quelque temps, et je trouve qu'il commence à me renvoyer un petit côté surcoté comme ça.
Ouais, je te rejoins. Est-ce que Mathis, t'es revenu ou pas? Parce que je sais que t'as eu un problème technique, a priori. Tu l'as fait remonter, Clébar? Vas-y,
Non.
Jam, tu voulais réagir?
Oui, peut-être que certains vont dire que je force. C'est possible. Mais Chirivella est mauvais depuis l'arrivée de Gourvennec. Avant, soit pendant l'époque 2022-2023, la saison dernière, on ne disait pas qu'il était surcoté. On ne disait pas ça. Il faisait le jeu, il était bon, il voyait le jeu, il cassait les lignes de défense, il faisait des bonnes passes, etc. Il était bon, il était bon. On ne peut pas dire le contraire. Et celui qui pense le contraire, ben, heureux de débattre avec lui là-dessus.
Il n'a pas toujours été bon avec Ristouille, Chirivella.
Mais il y avait sa blessure aussi, il faut le comprendre. Attendez, il y avait
Ah ouais,
blessure.
peut-être, peut-être.
Tu sors de ton truc de blessure pour justement aider des clubs qui en ont besoin, t'es pas obligé de le faire. Et je
La
pense que
blessure,
ça
c'est l'an
montre aussi,
dernier,
énormément. Non, mais je dis pas que t'as dit quelque chose, juste je le souligne, t'inquiète. Non, mais ça souligne surtout que le joueur est professionnel et qu'il aime beaucoup le club, tu vois, pour faire ça. Prendre un risque sur sa carrière personnelle et professionnelle de faire une blessure plus grave, tu vois. C'est ce que je voulais souligner. Mais depuis l'arrivée de Gourvennec, le milieu, c'est compliqué. Et moi, je dis que c'est juste pas anodin, simplement.
Je pense que tu as raison. Paul, tu voulais rebondir?
Moi, vite fait, sur le cas Chirivella. Moi, je trouve que Chirivella a une aura, une protection des supporters vis-à-vis de son tour de blessure. Moi, je trouve ça fantastique ce qu'il a fait de mettre un peu, au final, sa santé en jeu pour revenir pour le club. Après, si on parle d'un point de vue factuel, sa saison à Chirivella, la saison dernière, elle n'est pas exceptionnelle non plus. D'accord, c'est un très bon capitaine. C'est un gars qui parle très bien dans les vestiaires, qui beaucoup de coachs aimeraient l'avoir dans son effectif. Simplement, quand on regarde les performances en début de saison, c'était pas la folie. Même chose à la période hivernale, quand l'équipe commence à lâcher au niveau de la Juventus, c'est pas non plus exceptionnel. Et en fin de saison, en fait, il fait une bonne fin de saison. Et aux yeux des supporters, je trouve que comment dire. Son retour avec le contexte qui l'accompagne lui donne un peu cette aura protectrice, mais voilà, on n'ose pas taper sur Chirivella parce que c'est le héros qui nous a sauvés en fin de saison dernière, mais il faut quand même savoir dire qu'il ne fait pas non plus la saison exceptionnelle l'année
Oui,
dernière.
bah, le mot qui correspond un peu, c'est un peu immunité, même si, bon, là, comme je disais, Gourvennec n'a pas hésité à le sortir tôt. Ça veut dire qu'il a peut-être une confiance aussi assez limitée, alors qu'un Mollet n'était pas spécialement bon, hein, et un Coco d'ailleurs. J'ai été étonné que Coco ne se fasse pas partie des premiers changements. On va enchaîner sur les attaquants. Ouais.
Oui, je voulais dire que l'immunité, elle est aussi là pour Palois, avec tout ce qu'il a fait les dernières saisons. Et puis, c'est quand même le joueur qui est là depuis le plus longtemps. Donc, je trouve qu'il a aussi un petit peu un petit totem
C'est pas faux.
d'immunité.
Mais par rapport à l'immunité de Palois, moi, au soir des victoires qu'on avait pu faire à Toulouse et contre Lorient, moi, j'étais le premier à dire que je préférais Palois sur le banc, notamment par rapport à ces histoires de profondeur qui nous coûtent le second but ce soir. Moi, Palois, effectivement, ces dégagements en touche, tout ça, ça a vécu, quoi. J'adore le joueur. Par rapport à la prolongation, le débat va bientôt arriver, mais bon, je pense qu'il a malheureusement fait son temps. Et Chaumert, dont on parle beaucoup aussi, il n'aurait pas démérité plus que Palois aujourd'hui. Hein.
Ah,
Enfin bon.
je suis d'accord, ouais, son temps à Nantes semble fini. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être ses dernières apparitions sous le maillot nantais, parce que je pense que la saison prochaine, peut-être qu'il fera des tout petits bouts de match, ou alors
Il est
même
en fin
il
de contrat,
partira en
hein.
skate. Ouais, voilà, donc déjà, faut qu'il re-signe. Moi, je sais pas, je préférais le voir partir peut-être à la fin de la saison, mais là n'est pas le débat.
Sur une bonne note, ouais, tout à fait. Alors les attaquants, Mostafa 3,5 et Simon 5,7. Mathis, allez, qui avait la parole sur Mostafa. Est-ce que tu trouves ça un peu sévère pour le Pharaon? Bon, je pense que avant que tu répondes, le penalty joue peut-être beaucoup.
Ah bah moi je suis encore pire. Moi j'ai mis 2,5 pour Mostafa. Ça peut paraître vraiment dur, mais je l'ai pas trouvé dedans. À un moment, il récupère une balle à 40 mètres de nos buts et il fait une passe qui est juste mauvaise. Mais bon, je pense que ça c'est ouais, des concentrations, je sais pas, alors qu'il en est largement capable. Et ouais, je suis assez déçu de son match parce que on sait que c'est un petit peu le seul joueur de l'équipe qui est au-dessus des autres et qui, pourquoi pas un jour, pourra jouer dans un très bon club. Et puis, il ne faut pas oublier aussi sa personnalité en équipe d'Égypte. C'est quand même la deuxième star derrière Salah. Donc, forcément, on s'attend à qui marque. En plus, c'est notre leader offensif. Ou alors qu'il fasse de bonnes performances. La seule belle action qu'il a fait, c'est, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est cette passe un petit peu en profondeur pour Simon, qui n'est pas facile à voir. Et c'est peut-être son seul geste intéressant du match. Et effectivement, le penalty lui enlève peut-être un ou deux points, parce que c'est lui, malheureusement, qui le subit.
Je pense que sur Mostafa, il a tout dit, Matisse. Sur Simon, 5,7, James.
James vient de déco.
Paul, sur Simon, 5,7, ton avis?
Oui, je trouve que c'est une note qui est assez juste. Moi, je l'ai mis 6 sur Tribune Nantaise. Voilà, un joueur très performant qui s'est amélioré techniquement, qui arrête de se planter au poteau de corner. Il est beaucoup plus utile dans les surfaces de jeu. Après, voilà, peut-être encore, si je devais lui trouver un point amélioré, ce serait ses centres. Peut-être un peu trop de gâchis, quoique j'ai l'image de son premier centre où il va aller chercher la tête de Mohamed qui n'arrive pas à la redresser suffisamment et qui part juste au-dessus de la barre. Mais non, encore une très bonne performance de Simon. Mais pour moi, faut continuer à l'accompagner, joueur, parce que vu la qualité des matchs et comment il est servi, il va commencer à se frustrer de faire tous ses efforts pour ne pas être récompensé.
Exactement. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Simon a la balle sur le côté, il n'a personne à moins de 10-15 mètres de lui. Il n'y a aucun Nantais qui vient l'aider. Et ça, je trouve ça grave. Ça veut dire à la fois qu'ils ont entièrement confiance en ses capacités de percussion pour passer ses défenseurs. Mais il y a des fois où on l'a vu sur le côté. Il est tout seul. Donc il arrive, parce qu'effectivement, il a une très bonne qualité technique, très bonne qualité de vitesse, il arrive à passer. Mais c'est grave qu'il n'y ait quand même aucun Nantais qui se retrouve à moins de 10-15 mètres de lui. C'est arrivé plusieurs fois. Alors ok, Kodza, il a fait des efforts. On va pas lui demander de monter tout le temps. Mais faudrait qu'il y ait un milieu de terrain ou quelqu'un qui vienne. Et ça montre encore que le système était trop défensif cet
Mais
après-midi.
ce que tu dis là, Matisse, c'est valable sur beaucoup de joueurs.
Ah
Oui,
oui,
oui.
c'est sûr qu'il y a des joueurs qui restent toujours de leur
C'est-à-dire que
côté, même
Mohamed, on
s'il
l'a
perd
trouvé
ses...
esseulé. Moses Simon, lorsqu'il partait, il était esseulé. Mollet.
Et il a été sujet à des prises à deux, Simon, systématiquement.
En plus.
Ouais. Clébard, puisque tu avais la parole, ils sont pas notés sur Cockpit, mais donne-nous un peu ton sentiment sur les entrants. Allez, on va commencer par Abline. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, c'est pas celui qui a eu le plus de temps de jeu.
Moi, Abline, c'était un joueur que j'aimais beaucoup, mais l'image de beaucoup de joueurs de l'équipe, là, il est en train de se perdre. Et puis, on a l'impression que c'est que l'ombre des petites promesses qu'il nous avait fait sous Aristouille. Donc, je crains que ses jours à Nantes soient comptés. Déjà, c'était un petit peu le cas avec Rennes qui voulait récupérer le joueur pour à nouveau le reprêter. Là, maintenant, il ne semble même plus concerné par le projet nantais.
Ok, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Sur Motusami, James.
Je peux rien trop lui reprocher aujourd'hui. Pas exceptionnel, pas mauvais, mais c'est du Moutoussami.
Ouais, en plus, il est rentré. Bon, le score était acquis. Matisse sur Benny Traoré.
Bah, comme tous les attaquants qui sont rentrés, que ce soit lui ou Kadewere ou Ablin, ils essaient de faire entre guillemets de leur mieux. Mais il y a tellement personne à côté et tellement peu de cohésion d'équipe que généralement c'est voué à l'échec même contre le 17e de Ligue 1.
Ouais, je pense que je te rejoins là-dessus. Et Paul, pour Kadewere, même si Mathis en a un petit peu parlé, moi je parlais tout à l'heure de cette complicité forte qu'il y avait avec Mohamed. Est-ce que tu penses, bon, une fois que tu m'auras donné ton avis sur ce match, qu'il faut les aligner tous les deux en plus de Moses?
Mais je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au début du space. on est largement capable de jouer à limite 4 devant. Simon en ailier gauche, Kadewere en ailier droit, Mohamed et Beni Traoré en pointe contre un 17e de Ligue 1 qui a marqué 4 buts sur ses 5 derniers matchs. C'est normalement le strict minimum. Enfin, c'est ce qu'on devrait aligner. Et le fait qu'on ne soit pas capable de prendre ces décisions, ça trahit un réel manque de confiance. Mais oui, forcément, c'est des joueurs très complémentaires. On aurait pu attendre à deux fortes personnalités qui allaient, voilà, ça allait tourner au niveau du banc. Mais non, au final, c'est deux joueurs qui sont capables de jouer titulaires ensemble et de bien s'accorder.
Et là où je vais rebondir, c'est sûr qu'en n'utilisant pas Traoré et Kadewere, par rapport au mercato où Gourvennec a dit qu'on avait besoin de joueurs pour rafraîchir, bah, le rafraîchissement, s'il se fait sur le banc de touche, ça marche forcément moins bien que s'il les met sur le terrain, quoi. Notamment, quand, comme disait Paul, quand on joue le dernier du championnat. Moi, Clébard, pour les notes, j'ai terminé. On va juste peut-être se projeter sur le prochain match en donnant un peu notre opinion, puis on bouclera là-dessus. Alors, le bus, je pense qu'on va peut-être être à deux étages, non? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Clébard, contre Marseille, qui a mis une tôle hier, clairement.
Bah écoute, moi c'est simple, j'espérais j'espère qu'après ce match-là, Gourvennec puisse avoir envie de changer son fusil d'épaule. Malheureusement, vu comment joue Marseille actuellement, je crains qu'il ait envie d'essayer la même stratégie que récemment, c'est-à-dire le 5-3-2, parce que face à une équipe qui va souhaiter avoir le ballon. Je rappelle que cette composition-là est l'une de dans un passé récent qui a le plus emmerdé le Paris Saint-Germain, ça peut aussi emmerder Marseille, donc je crains qu'il nous sorte son 5-3-2 qui commence à être un petit peu chiant et en tout cas qui manque d'opportunités offensives.
Alors, je vais juste préciser, Marseille à notre avantage, je vais laisser un peu après intervenir James, recevra Villarreal jeudi et nous on joue dimanche. Ouais, James, ton avis sur le match de l'OM?
Si on perd à 5-3-2 face à Metz, on perdra à 5-3-2 face à Marseille. En plus, c'est chez eux.
Tu sors du lab.
Quitte à perdre, pourquoi ne pas tenter une défense à 4 en mettant tes attaquants, donc Kadewere, Traoré, Mohamed et Simon, dans un 4-1, 4-1, 4-4-2, ce que vous voulez. Essayez de les mettre en confiance pour qu'ils prennent déjà des automatismes de jeu ensemble. Parce que quitte à perdre, franchement, quitte à perdre, on perd 5-3-2, en 5-3-2 pardon, aujourd'hui, contre Metz, la pire équipe de Ligue 1, il n'y aura pas de miracle face à Marseille, il ne faut pas se leurrer. Ce soir, récupérer un nul ou pas, il n'y aura pas, je vous le dis d'avance. Donc pourquoi ne pas tenter le 4 défenseur, tout simplement. Mais il ne le fera pas.
Ouais, c'est possible. Mathis, sur le match de l'OM?
Ouais, bah, je pense que ça risque d'être compliqué, il faudra être solide défensivement parce que l'attaque marseillaise est en train de se réveiller. Il y a toujours Aubameyang qui est quand même à bon niveau. Mais bon, j'espère qu'ils vont bien se fatiguer contre les Espagnols jeudi et que bah, derrière, on puisse utiliser peut-être dans les 15, 20, 30 dernières minutes du match une fraîcheur qu'on aura. Et que eux justement n'auront pas pour pourquoi pas faire la différence. On sait que cette dernière saison, on a quand même fait parfois des petits résultats au Vélodrome. Je me rappelle d'une victoire 2-1 où Bamba avait été excellent. Mais honnêtement, je ne sortirai pas la carte de l'optimisme pour ce match. Je pense que on retournera à Nantes avec 0 point ou 1 point. Vraiment, ça semble compliqué. Ou alors, va falloir que tout le monde fasse une grande performance, y compris le coach dans ses choix tactiques.
Paul, match de l'OM. Paul, tu es là?
Hop, excusez-moi. Oui, le match de l'OM, bah forcément, ça va être un match très compliqué. Je rejoins un peu ce qui a été dit juste avant. Ça va être assez dur d'aller chercher des points dans un vélodrome. Voilà, en plus, Jean-Louis Gasset semble avoir redonné une très bonne dynamique au groupe marseillais. Il va vouloir confirmer forcément et continuer sur sa bonne série. Donc non, moi j'attends aucun miracle. Enfin, j'attends justement le miracle à Marseille, mais j'attends pas forcément de résultats très probants.
Ok. Bon, plutôt des notes un peu négatives, mais vu l'après-midi qu'on a vécu, on est dans une certaine logique. Moi, je vais vous prendre votre contre-pied. Je pense que Marseille va donner beaucoup pour la Coupe d'Europe. Que c'est un match important pour eux. Et je les sens fatigués. et je nous vois gagner 1-0. Voilà. Donc, tu me prendrais peut-être pour un fou, en tout cas c'est enregistré.
Non, j'ai envie d'y croire, tu sais, j'ai envie d'y croire.
Non, mais à un moment donné, ouais, on a quand même des joueurs. Bon, je crois qu'il y a eu un article de l'équipe qui parlait des joueurs forts. Il y avait notamment Palois, pour moi, qui ne méritait pas d'être dans l'article, mais des joueurs comme Castelletto et Simon n'ont pas démérité aujourd'hui. C'est sûr qu'il faudra que les planètes soient alignées, mais ils jouent quand même 3 jours à l'avance, donc 3 jours avant, donc on a moyen de les cueillir, quoi. Enfin, moi, j'y crois en tout cas. Et le 5-3-2, ça va peut-être plus approprié face à l'OM.
Ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est peut-être avec une défense à 5 en étant solide derrière et en piquant Marseille en contre, qui est plutôt lent en défense avec par exemple un joueur comme Gigot, qui est quand même pas
Mbemba.
le Usain Bolt de la défense. Donc, on peut, c'est peut-être effectivement le meilleur système à utiliser et puis espérer un contre fou avec Simon, Mohamed et puis un autre joueur qui vienne finir et pourquoi pas créer un malentendu au Vélodrome.
Et je vais, avant de repasser la main à Clébard, on a gagné 2 matchs à l'extérieur de suite, donc vous connaissez l'adage, hein, jamais 203. Clébard, pour
Eh bien,
conclure.
écoutez, moi je vais vous souhaiter une belle soirée sur ces propos. Il y a eu peu de positifs, mais à l'image du match en même temps, c'était très compliqué d'en retirer, en espérant qu'il y en ait plus la semaine prochaine.
Voilà,
Bonne
voilà.
soirée à
Merci
vous.
aux auditeurs, merci à tout le monde, et puis on se retrouve rapidement pour débriefer le 1-0, victoire de Nantes au Vélodrome sur un but de Moses Simon.